rejoindre sur France Inter le journal Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est l'un des enjeux de l'élection en 2022, le nucléaire. On parle de nouvelles centrales, mais encore faut-il s'occuper des déchets radioactifs actuels. Les grands bassins dans lesquels ils sont entreposés seront saturés dans moins de 10 ans. Une consultation publique démarre aujourd'hui pour la construction d'une nouvelle piscine à La Hague. Il y a urgence, selon le gendarme du nucléaire. Le détail dès le début de ce journal. Nouvelle restriction anti-Covid et nouvelles tensions dans plusieurs pays européens. Alors que chez nous, certains Français non prioritaires s'impatientent de recevoir leur troisième dose dans les centres de vaccination. Reportage. Au sommaire aussi ce matin, le procès d'un franco-rwandais à Paris pour complicité dans le génocide des Tutsis. L'extrême droite en tête du premier tour de la présidentielle au Chili et la mission Armageddon de la NASA.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui le président de la région Hauts-de-France, candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle, Xavier Bertrand.
France Inter.
Construire ou pas de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est l'une des questions, Alexis, de la campagne présidentielle.
Enjeu relancé notamment par cette annonce d'Emmanuel Macron lors de son allocution il y a 15 jours. Le chef de l'État veut un nouveau programme de construction de centrales. Il n'est pas le seul. D'autres, à droite par exemple, en font aussi une priorité. Tandis qu'insoumises et écologistes plaident eux pour une sortie plus ou moins progressive du nucléaire. Mais quoi qu'il arrive, nouvelle centrale ou non, il va falloir se soucier très sérieusement des déchets radioactifs du parc actuel. Les bassins de La Hague, dans la Manche, où refroidissent déjà 10 000 tonnes de déchets, seront saturés dès 2030. EDF veut donc construire un nouveau bassin de 6 500 tonnes pour plus d'un milliard d'euros. La consultation publique démarre aujourd'hui, Delphine Simon.
C'est l'équivalent de 110 cœurs de réacteurs qui refroidissent dans les quatre piscines de l'usine de La Hague. 1200 tonnes de combustible irradié les rejoignent chaque année. Du combustible sorti des centrales nucléaires d'EDF, c'est plus qu'Orano, l'entreprise qui gère le site, ne peut en retraiter. À ce stade, les piscines sont déjà remplies à 92%. Elles seront saturées d'ici 2030, voire avant. D'où l'idée d'en construire une nouvelle, sauf qu'elle ne sera pas mise en service avant 2034. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire s'impatiente contre ce manque d'anticipation des politiques et des industriels, Bernard de Rojouk.
Bien évidemment, tous les exploitants font preuve de grande imagination pour nous indiquer qu'il est possible de valoriser leur matière. Attention à ne pas entretenir une illusion pour pouvoir effectivement repousser un peu trop loin la qualification en termes de déchets de matière. Jamais il n'y aura vraiment d'usage pour cet uranium appauvri et pour nous, nous estimons qu'il faut avoir une approche prudente et bien évidemment le coût afférent.
EDF espère un feu vert en 2026, mais avant cela, un débat public doit se tenir et les antinucléaires locaux fourbissent leurs armes.
Et cette concertation publique sur la construction de nouvelles piscines doit durer jusqu'en février prochain. L'Autriche, premier pays européen à reconfiner sa population face à la nouvelle flambée de Covid. Depuis minuit là-bas, interdit de sortir de chez soi, sauf pour faire ses courses, aller à l'école ou chez le médecin. Nouvelle restriction aussi en Belgique, qui à partir d'aujourd'hui généralise le port du masque et rend obligatoire le télétravail au moins 4 jours par semaine. Ce qu'ont dénoncé hier 35 000 manifestants dans les rues de Bruxelles. Cela a dégénéré en fin de parcours. En France, c'est toujours en Guadeloupe que se cristallisent les tensions sanitaires et maintenant sociales. Après une semaine de grève générale, 30 personnes seront jugées aujourd'hui en comparution immédiate, soupçonnées d'avoir pris part aux violences urbaines des dernières nuits. Les écoles vont rester fermées ce lundi sur l'île. Trop compliqué de circuler avec les barrages routiers. Réunion ce soir à Matignon entre Jean Castex et des élus guadeloupéens, alors qu'un autre appel à la grève générale est maintenant lancé aussi en Martinique.
Et quand certains refusent le vaccin à 7h33, d'autres attendent avec impatience leur dose de rappel.
Oui, pour l'instant, elle est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles. La Haute Autorité de Santé recommande de l'élargir dès maintenant cette troisième dose aux plus de 40 ans, mais le gouvernement n'a pas encore revu son calendrier. Pourtant, la demande est déjà là dans les centres de vaccination. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis par exemple, certains se présentent ces derniers jours alors qu'ils n'ont pas l'âge minimum requis, Faustine Calmel.
Je suis en rendez-vous pour me faire la troisième.
Pour la troisième dose ?
À l'accueil, c'est Jamila.
Vous aviez été vaccinée quand pour la dernière ?
Les troisièmes doses représentent depuis la semaine dernière 6 injections sur 10. majoritairement des plus de 65 ans, comme cette dame, 81 bougies. Mais depuis plusieurs jours déjà, Jamila fait face à des usagers plus jeunes.
Alors oui, on a de plus en plus de personnes qui viennent effectivement prendre des rendez-vous et qui veulent absolument se faire vacciner avant que le rush arrive, quoi.
Il faut alors redonner les règles, expliquer, tenir bon, car la pression est forte, admet Florence Villagy, responsable du centre.
Il y a effectivement les fêtes de fin d'année où chacun ne veut pas risquer de revivre les contraintes qu'on a vécues l'année dernière, puisqu'on pensait être sorti de l'ornière. Il y a clairement quand même la reprise épidémique. Et puis, il y a aussi les dernières annonces avec la désactivation du pass sanitaire.
Alors parfois, admet l'un des médecins, si le délai de 6 mois entre deuxième et troisième dose est respecté, oui, il pique déjà les moins de 65 ans.
Ça a été annoncé, l'ARS nous l'a écrit dans un document, que ça allait être fait. On a des vaccins, on a de la place, on peut le faire, donc je les vaccine.
Le centre de vaccination de Montreuil s'attend à un afflux de demandes et envisage déjà d'élargir ses horaires d'ouverture.
Reportage Faustine Calmel, 5e vague de Covid à laquelle les soignants redoutent de voir s'ajouter la grippe. À partir d'aujourd'hui, le vaccin antigrippal est accessible à toute la population. Depuis un mois, il était réservé aux plus fragiles. Une campagne qui a démarré plus doucement que l'an dernier. Environ 6 millions de vaccinés pour l'instant. C'est 1 million de moins qu'en 2020. Une année record, il faut le dire. 27 ans après le génocide au Rwanda, plus de 800 000 morts en 1994, un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui en France. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Un franco-rwandais de 60 ans est jugé pendant un mois à Paris pour complicité de génocide.
Oui, Claude Mouaïmana, 60 ans, qui vit aujourd'hui à Rouen, placé sous contrôle judiciaire. Au printemps 94, il est chauffeur pour un établissement touristique d'État, le Guesthouse à Kibuye, dans l'ouest du Rwanda. Très vite, après l'assassinat du président Habyarimana, la région s'embrase. Des milliers de Tutsis qui ont cru trouver refuge dans une église, un stade et une école sont massacrés. Le même sort attend ceux qui ont fui vers les collines voisines. Claude Mouaïmana est donc accusé d'avoir sciemment aidé les militaires et miliciens Hutus en les conduisant à de nombreuses reprises dans sa camionnette sur les différents sites des tueries.
Et il est la 4e personne à être jugée en France pour des crimes liés au génocide des Tutsis, Laurélie.
3 ont été définitivement condamnés, un officier militaire, 2 bourgmestres. 2 autres procès sont déjà prévus pour 2022, mais de nombreux autres dossiers sont au point mort. Or, le temps presse, insiste Alain Gauthier. Il préside le collectif des parties civiles pour le Rwanda et dénonce les lenteurs de la justice française.
Pour nous, c'est véritablement insupportable. Certaines des personnes qu'on poursuit en justice ont plus de 80 ans, donc même s'ils écopent d'une peine relativement lourde, jamais ils ne la feront parce qu'il ne leur reste plus beaucoup d'années à vivre.
Condamner les responsables du génocide, c'est aussi, dit-il, redonner de la dignité aux rescapés qui portent ce combat judiciaire.
Laurélie Carive pour ce procès qui va donc durer un mois à Paris. Au Chili, le candidat d'extrême droite arrive en tête du premier tour de la présidentielle. José Antonio Kast décroche 28% des suffrages contre 26% pour l'ancien leader étudiant Gabriel Boric, nouveau visage de la gauche. Ils s'opposeront donc au deuxième tour le mois prochain. Santiago Olivier Pujade.
L'hymne national des partisans de Kast pour exorciser le péril d'une gauche beaucoup trop radicale pour Myriam.
Kast sera président et nous allons terrasser le communisme au Chili.
Le candidat progressiste Gabriel Boric, 35 ans, n'est pas capable de diriger le pays, selon elle.
C'est un enfant. Il n'a pas le charisme pour être président. Derrière lui, il y a des personnes d'expérience. Des communistes.
Kast s'avance à la tribune, confiant et déterminé.
Le 19 décembre, nous allons choisir entre liberté et communisme, entre démocratie et communisme. Nous ne voulons pas prendre ce chemin qui nous mènerait au Venezuela ou à Cuba.
Depuis son QG de campagne, Gabriel Boric tente lui un appel désespéré à la jeunesse et aux femmes. Dans la foulée de ce discours, le plus puissant mouvement féministe chilien convoque une réunion extraordinaire sur les réseaux sociaux et lance un appel à la mobilisation face à un candidat qui projette d'annuler la récente loi autorisant l'avortement.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Inter au Chili. Une parade de Noël qui vire au drame aux États-Unis. Une voiture a percuté la foule cette nuit dans le Wisconsin. 5 morts et 40 blessés selon la police locale. La commission de discipline de la Ligue de football doit se réunir en urgence aujourd'hui après une nouvelle soirée cauchemardesque pour le championnat français. Le choc Lyon-Marseille arrêté hier soir au bout de 5 minutes à peine quand le Marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporter lyonnais. S'en sont suivis 2 heures d'incertitude à Lyon. Le speaker du stade a d'abord annoncé la reprise du match avant finalement qu'on officialise l'arrêt définitif.
France Inter, il est 7h39. La suite du journal, Alexis Morel.
Quand la réalité rejoint la fiction dans l'espace, la NASA s'apprête à lancer cette semaine une mission qui fait un peu, voire beaucoup, penser à Armageddon, le film sorti en 98. Une fusée décollera dans moins de 48 heures de la Californie, direction un petit astéroïde à 11 millions de kilomètres de la Terre. Objectif, dévier sa trajectoire. Ce gros caillou ne nous menace pas directement, mais il servira de test au programme de défense planétaire sur lequel planchent conjointement Américains et Européens. Sophie Becherel.
C'est le genre de scénario avec lequel certains aiment se faire peur, même si le risque qu'un astéroïde percute la Terre est faible, en tout cas les très gros, qui sont très bien répertoriés. Celui-là ne fait que 800 mètres de diamètre, une catégorie où 40% reste non localisé. Alors, autant se préparer. Une fois lancé, le satellite DART mettra 10 mois à arriver sur sa cible. Il ne lâchera pas de projectile sur l'astéroïde. Non, tel un kamikaze, il se jettera sur lui. Plus précisément sur le plus petit des deux cailloux, car l'astéroïde choisi est double, raconte Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'un des responsables de cette mission.
Ce qu'on cherche à faire, c'est à dévier la trajectoire de la petite lune autour de son corps principal, parce que ça suffit pour tester la déviation. Et d'ailleurs, comme la petite lune tourne à une vingtaine de centimètres par seconde autour de son corps principal et qu'on va taper à des dizaines de milliers de kilomètres heure, la déviation est instantanée et on pourra donc observer au moins une partie de l'effet avec les télescopes terrestres.
En 2024, ce sera le deuxième acte de ce programme. Le satellite européen ERA sera à son tour lancé pour étudier sur place, en détail, l'impact de la collision grâce à un radar.
Voilà, nous voilà rassurés. Il y a bien des gens qui se préoccupent des astéroïdes qui pourraient nous foncer dessus.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.